Alors, il est déjà à minuit 45. On termine avec Maître Jean-François Gay. C'est la chronique « Prendre la route ». Madame Lévesque m'a téléphoné pendant la pause.
Oui.
À propos des fameux clignotants.
Oui.
Elle me dit, regardez des camions, M. Fabi, quand ils roulent, par exemple, dans une pente, sur l'autoroute, parfois, je le remarque, surtout quand on arrive dans la région du Mont Offord, où il y a davantage de pentes,
oui.
Ben, les camions qui sont pesants, qui n'avancent pas trop vite, ben souvent mettent leur clignotant.
Oui.
Mais ça les empêche pas de rouler. Alors, probablement que j'étais encore une fois dans les patates.
Non, mais tu as raison, parce que par contre, j'ai vu déjà des gens, moi, qui roulaient trop vite. Mettons quelqu'un en urgence, là. Tu sais, je sais pas, là. Ils doivent aller à l'hôpital, peu importe. Ils vont dépasser la limite de vitesse puis ils vont mettre les quatre clignotants. Moi, je vous dirais, là, ils sont en infraction.
Oui, là, c'est peut-être un jeu dangereux.
Même si c'est un cas de vie ou de mort pour toutes sortes de raisons, des fois, on ne sait pas. C'est toujours mieux d'appeler les ambulanciers. Des fois, on n'a pas le temps. Mais c'est sûr, si vous devez faire des excès de vitesse, mettez au moins vos clignotants pour qu'on vous voit arriver, là.
Exactement. Alors, comme il y a beaucoup d'appels, on va s'exécuter, si je peux dire, immédiatement. Et nous allons d'abord parler à M. Sylvain. Oui, salut Sylvain.
Bonsoir, en tout cas, félicitations pour l'émission, moi j'aime bien ça. Maintenant, c'est vrai que les camions, quand ils vont lentement, mettent le 4 clignotants, puis pour indiquer qu'il y a un obstacle en avant, mais ils ne roulent pas en quatrième voie sur l'autoroute à 60 km/h, par exemple. C'est là qu'est le problème. Moi, je suis sur l'autoroute de Laurentides, là, puis il y en a, la visibilité, oups, elle devient vraiment pas bonne, puis oups, elle devient bonne, mais il y a encore ces 4 clignotants, puis ça roule peut-être 60 km/h, qui est en troisième voie. Il y en a 4 voies, il est en troisième voie. Colle-toi à droite si tu veux faire un obstacle.
Ouais.
Quand tu t'en viens, visibilité pas trop bonne, tu vois 4 clignotants, tu dis il y a un obstacle. Ben non, l'obstacle, il roule. Là, quel bord que je vais passer? Parce que, mais, tu sais, tu veux mettre tes 4 clignotants, OK, mais colle-toi sur la droite. De cette façon-là, tu bloqueras personne parce que c'est vrai qu'en troisième voie, quand tu t'en vas à 60 puis il y en a qui veulent rouler 70 ou vice-versa, c'est vrai que tu es dangereux. Mais c'est un peu, personnellement, innocent aussi. Tu sais, je veux montrer à tous que c'est dangereux, mais oui, mais autour de là.
Oui. Puis souvent, les policiers n'appliquent pas la loi par rapport à ça. Parce qu'il y a des gens qui roulent dans la voie de gauche, qui ne roulent pas assez vite. Puis c'est sûr que sur l'autoroute, c'est marqué 60 km/h à la vitesse minimale jusqu'à 100. Mais il y a certains articles, monsieur, là, vous me faites penser à ça. Les policiers n'appliquent pas, je pense, aux pneus. Là. Je fais encore une parenthèse parce qu'il y a une loi par rapport à l'usure des pneus. Puis là, on vérifie des pneus d'hiver, etc., etc. Mais on devrait vérifier l'usure des pneus parce que ça, les pneus... Il y a beaucoup de personnes qui ont pris le champ là, ce week-end. Souvent, il n'y a pas juste la conduite. Des gens roulent peut-être trop vite, mais il y a des gens aussi qui sont mal chaussés. Ça fait en sorte là, que ça fait des dérapages, puis ça devient dangereux.
Oui, puis encore là, sur une autoroute à quatre voies, là, quand tu ne fais pas beau, pourquoi tu roules en troisième? Pourquoi tu ne te colles pas? La voie la plus utilisée sur l'autoroute de Laurentides, quand c'est quatre voies, c'est la troisième. Qu'est-ce que tu fais là?
Ouais.
T'as aussi moins deux. Mais non, le monde se roule là. Puis on pousse à côté, ça ne dérange pas. Mais oui, mais c'est ça les risques d'accident.
Parce qu'on n'est pas seul au monde quand même. Il faut prévoir aussi le comportement des autres automobilistes. Et dans certains cas, ça, c'est pas toujours facile. Parfait, Sylvain, merci d'avoir appelé, puis bonne route.
Merci.
Salut, merci et à bientôt.
Bonsoir. Les gens vivent dans le bulle.
Oui, c'est un peu ça.
Ils sont dans leurs autos, puis...
Hein, oui. Ouais. Nous allons parler maintenant à M. Jean-Luc.
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Moi, j'ai une question. Je voudrais savoir, M. Gay, qu'est-ce que vous pensez d'un Honda Civic SI 2019?
Qu'est-ce que j'en pense? Vous voulez dire si c'est un bon véhicule ou pas, là?
Oui, exact.
Bien, écoutez, c'est sûr que c'est un produit Honda. C'est un produit qui a fait ses preuves. Si on regarde les rivales directs de cette voiture-là, je vous dirais qu'il y a essentiellement la Golf GTI. Mais c'est sûr que c'est pas dû à tout le monde, la SI. Là. Vous avez quel âge, vous?
37.
Puis y a-t-il une raison pourquoi vous intéressez plus à cette voiture-là, admettons, du côté sportif, plutôt qu'une Mustang, par exemple?
Bon, ben oui, ben moi, je suis sur la route, j'aime mieux ça, là, que Mustang, c'est une traction arrière. Oui, là, mais...
OK, OK. Parce que c'est pas la voiture la plus confortable. Hein? On s'entend, ça va être un petit peu moins confortable que la Civic, là... De luxe, si on veut, là, avec le moteur le moteur qu'on pourrait dire conventionnel. Mais c'est sûr que la SI, c'est une voiture qui est très performante. C'est une voiture où vous allez avoir du plaisir. Mais par contre, les suspensions sont un petit peu plus sèches. Les sièges sont plus enveloppants, oui, mais sont un petit peu mou, sont un petit peu plus fermes. Donc, si c'est le genre de véhicule que vous aimez, ça serait un bon choix. Puis l'alternative à ça, ça serait la Golf GTI. Ou encore, si vous voulez payer un petit peu moins cher, ce serait peut-être intéressant d'aller voir, c'est la Hyundai Elantra GT. Le moteur est moins puissant, mais Hyundai a fait beaucoup d'améliorations au niveau de l'aménagement intérieur. C'est un moteur, je pense, qui a 201 chevaux. C'est un 1,6 litres, 1,6 turbo. Mais puis ça va vous coûter moins cher à l'achat.
Puis, deuxième affaire, il disait les Honda, là, le 1,5 turbo, il y a des petits problèmes, tout ça. C'est-tu vrai? Ou en 2019, c'est-tu pas pire?
Bien, se sont améliorés. Ils ont amélioré le produit. Ouais. C'est sûr qu'ils ont eu des petits problèmes au départ. C'était un nouveau moteur, mais semble-t-il qu'ils ont corrigé là, les lacunes.
Ça, c'est-tu vrai, ces moteurs-là, quand tu arrêtes, faut. Quand tu t'arrêtes à une place, il faut t'attendre une minute avant de l'éteindre pour faire tourner le turbo.
Tous les moteurs turbo, c'est conseillé, ça.
C'est sûr que.
Oui, c'est conseillé, surtout si vous avez, exploité la puissance du moteur, là, si vous avez fait révolutionner un peu plus là, qu'à l'habitude. C'est toujours mieux, un moteur turbo, d'attendre qu'il se refroidisse un peu, comme on dit.
Ça, c'est quoi, une minute, deux minutes avant
de c'est dur à dire. Peut-être une minute ou deux, ça me semble court un peu. Mais ça dépend, là. Si vous roulez normalement, non. Mais admettons, là, moi, je ne sais pas, quelqu'un qui va faire de la piste hein, avec son véhicule, puis qui l'arrête là, quand il sort, quand il a fini de faire des accélérations, puis des reprises, etc., sur le circuit privé, par exemple. Je pense à Icar, là. C'est sûr que là, je vois dans l'extrême, là, c'est pas tout le monde qui va avec une SI là, sur un circuit privé. Mais ça a été peut-être aussi plus. Il y a mettons, on recule de 10, 15, 20 ans, les moteurs turbo, je pense au Saab notamment, Saab qui avait des moteurs turbo 2 litres, etc., on disait de ne pas éteindre le moteur immédiatement. Là, c'est sûr que les mécaniques ont évolué, se sont améliorées, mais je me répète peut-être, là, mais si vous faites un usage normal, je vous dirais que vous n'êtes pas obligé d'attendre. Mais si vous avez exploité le moteur un peu plus que d'habitude, oui.
Parfait. Puis dernière petite affaire, sinon... Mazda 3 Sport GT avec la all-wheel drive. Avez-vous eu la chance d'essayer ça?
Oui, j'ai essayé ça. Puis
ça vaut-tu la peine?
Bien, ça vaut-tu la peine.
C'est
ce qu'on ne compare pas avec la SI, pas du tout. Moi, je la comparerais plutôt avec une Subaru Impreza, même si l'Impreza, le moteur est moins puissant. Parce que c'est une traction intégrale. On parle de la traction intégrale, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. Mais conseillez-vous ça, une Mazda 3? La all-wheel drive?
Oui, je la conseille. Par contre, je vous avoue que j'hésiterais entre ça et une Impreza. C'est sûr qu'au niveau du look, la Mazda est plus jolie, hein, plus moderne, si on veut. L'intérieur aussi est quand même bien, mais il ne faut pas négliger pour autant l'Impreza. Puis au niveau du rouage intégral, ils ont fait leur preuve. C'est une question de goût, c'est une question de budget. Moi, je vous dirais de magasiner ça. Après ça, vous pourrez peut-être prendre une décision plus éclairée.
Parfait, Jean-Luc.
Ben,
merci à vous. Merci d'avoir téléphoné. Passez une très bonne nuit. Nous allons parler maintenant à M. Serge.
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Dans le fond, je roule à peu près 38 000 km par année.
Oui.
Puis, je voudrais savoir, j'hésite. Je veux changer de véhicule. J'hésite entre soit une TDI ou une hybride.
Une TDI, on parle d'un modèle d'occasion usagé, là.
Oui, c'est ça, dans l'auto, mettons, entre 2013-2015.
OK. Puis quand vous pensez à une hybride, vous pensez à quoi, notamment?
J'ai vu que la Jetta avait de l'air correct, du point de vue performance. Là, puis,
une Jetta
confort,
hybride?
Oui.
Ben moi, j'opterais davantage pour une TDI à ce moment-là.
OK.
Dans les petites voitures compactes, là, voitures hybrides, là, bon, là, cette année, il y a la nouvelle Corolla. Hein, mais on s'entend, c'est une voiture neuve, là, la nouvelle Corolla, qui fait quand même 4,5 litres au 100, ce qui est quand même extraordinaire. C'est pratiquement aussi économique qu'une Toyota Prius. Et moi, je vous dirais qu'il y a déjà eu aussi la Honda Civic hybride, qui n'était pas vilaine, qui consommait un peu moins que la Jetta. Mais là, il faudrait vérifier dans lesquelles années la Honda Civic, là, je pourrais vérifier ça rapidement. Honda Civic... parce que je cherche la réponse. Bon. En 2012, il y avait une Civic hybride. Ensuite.
Prenez votre temps, M. Guy.
Ben, je fais le plus vite que je peux, Jacques. c'est ça, de mémoire, c'est ça. Ça arrêtait en 2000. Non, il y en a une en 2014, 2015. Okay. Donc, 2014-2015, vous pourriez peut-être regarder pour une Civic hybride.
OK.
Ça, vous pourriez...
Bon, ben, j'irais, mettons, soit dans le Jetta ou Passat TDI, c'est la même affaire.
Oui, mais c'est sûr, si on pense à l'environnement, la Civic hybride va moins polluer là, que ces deux modèles-là. Au niveau de la consommation, ce que je peux vous dire, j'ai déjà fait un test... Une Jetta TDI versus une Honda Civic hybride. On a fait le tour de la Gaspésie. On a roulé jusqu'à temps que la voiture, la première qui tombe en panne, puis avec la Civic, là, dans les côtes, tout ça, en Gaspésie, on s'est rendu jusqu'à Bonaventure. On avait fait 3,9 litres au 100 km. Alors que la Jetta, on a fait 4,8 ou 4,9 litres au 100. Mais on respectait les limites de vitesse, 100 km/h.
Ouais. De toute façon, là, au kilométrage que je fais, là, je respecte ça. Sinon, ça va me coûter trop cher de gaz. Là.
Ben, c'est ça, exactement. Ouais. Parfait, monsieur. Puis, alors, oui.
Ben, juste une dernière fois. Oui. Mettons, je vais rester dans les véhicules à essence. La Elantra 2015, est-tu correct?
Oui, c'est des véhicules qui ont fait leur preuve. L'Elantra, je vous dirais, à partir de 2015, c'est correct.
Okay.
Parce que les modèles plus anciens, là, si on va des années 2009, 2010, 2012, là, j'aurais. Je la ferai inspecter là, comme il faut avant d'acheter un véhicule.
Oui, au cas où. Il faut absolument s'arrêter. Ben, merci, monsieur, d'avoir appelé. Et ben, bonne chance dans votre choix final. Maître Guy, merci. Passez une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine.
Oui, soyez prudents.
Oui, merci.